Europe 1, 15h, 16h, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Bonjour, think big, pense en grand, disent les Américains. Gims, lui, pense monumental. Monumental comme le concert qu'il donnera au cours de sa tournée baptisée Le Fuego Tour le 28 septembre au Stade de France. Et cela porté par un album événement rééditant les 40 titres de Ceinture Noire plus 13 inédits et baptisé Transcendance. Monumental comme ses ventes, car on écoute Gims dans toute l'Europe et sur le continent africain. Monumental comme son prochain défi, annexer le territoire américain. Et qu'on se le dise, Gims, showman hors pair et aussi producteur, a tout pour devenir le roi de la sono mondiale.
Europe 1.
Bonjour Gims.
Ouais. Bonjour. C'est beau. J'étais dedans là, je vais commencer à partir.
Ah bah c'est parfait. Eh bah justement, envolons-nous. Alors, l'info elle a bien circulé. On vous appelle plus Maître Gims, mais Gims. Et c'est pas anodin parce qu'il y a toujours une quête identitaire dans un changement de nom. Même si pour certains, comme Prince, la raison au départ était contractuelle. Donc Prince, au milieu de sa carrière, s'est fait appeler Love Symbol. Terence Trent D'Arby est devenu Sananda Maitreya et Sinead O'Connor, Shuada David. Pourquoi dites-vous adieu à Maître Gims pour devenir Gims?
Pourquoi? Parce que je pense que j'ai grandi, je m'appelais Maître Gims, j'étais déjà gamin.
Ouais.
C'était un peu un jeu pour moi, c'était en référence un peu avec les mangas, les arts martiaux,
ah oui.
Tout ce monde-là. Et avec le temps, j'ai vu qu'il y avait quand même une forme d'arrogance dans ce nom-là et que certains l'interprétaient, ne le voyaient pas comme ça. Ça commençait à me déranger.
C'est vrai.
Honnêtement.
Mais alors, ils réagissent comment, vos 20 millions de followers, devant cet allègement?
Oh, il y en a beaucoup qui sont déçus. Il y en a beaucoup qui sont déçus, qui disent « Non, moi, je continuerai à appeler le maître, machin, c'est le boss, c'est le maître. » c'est gentil et tout, mais je pense que c'est vraiment mieux comme ça.
C'est mieux comme
ça. Ouais, c'est mieux comme ça.
Bon, alors, votre vrai nom, en fait, c'est Gandhi Juna. Ça sonne comme un pseudo magnifique. Et puis, c'est Merci. Très symbolique, en plus, avec Gandhi pour prénom. Vous n'avez jamais eu la tentation de le garder?
J'ai eu la tentation, si, c'est vrai. Mais encore une fois, c'est... quand on est gamin, on veut un surnom. On t'appelle Gandhi, on m'appelle toujours Gandhi. Donc pour moi, il n'y a rien de... J'invente rien, je ne crée pas quelque chose. Je voulais un surnom, je voulais un personnage. Je voulais être un personnage, donc je voulais m'appeler... je voulais m'appeler autrement. On a monté un groupe de rap avec des potes, donc il fallait un surnom. Tout bêtement.
Mais vos proches vous appellent Gandhi.
Ah oui, oui.
Ah, votre maman, donc, par
Totalement.
Exemple, toujours Gandhi. Alors, comme Lagerfeld, qui n'a jamais ôté ses lunettes noires, eh bien vous, Gims, vous êtes devenu... une star sans que le public puisse jamais plonger dans votre regard. C'est plus difficile de retirer vos lunettes, finalement, que de changer de nom, parce que les lunettes, vous les gardez.
Ouais, c'est plus difficile. C'est beaucoup plus difficile. Je me protège un peu aussi avec ces lunettes, c'est une protection. Je sais que avec, c'est moi, quoi. C'est Gims, j'arrive, je fais le show, je fais mon concert, je suis en radio.
Et oui, sans, parce qu'il faut que je dise à nos amis auditeurs que là, dans la presque pénombre de ce studio, vous avez les lunettes noires.
J'ai les lunettes noires, effectivement.
Bon, dans Petit Pull Marine, Gainsbourg faisait chanter à Adjani « Je n'aurai plus qu'à mettre des verres fumés pour montrer tout ce que je veux cacher ». C'est ça le pouvoir des lunettes noires. Ça fait écran et en même temps, ça hypnotise.
Ça fait écran, ça hypnotise, ça permet de faire des choses plus facilement. Face au public, avec des lunettes, il y a quand même une barrière, il y a comme un voile. Du coup, ça rend les choses plus faciles. Ça rend les choses plus simples, pour moi en tout cas. Je peux plus facilement supporter la scène, les gens, la foule, etc.
Mais alors, par exemple, l'anonymat, pour vous, c'est retirer les lunettes.
Exactement. C'est étrange, hein. C'est Clark Kent, Superman, c'est l'inverse.
Voilà. Et même pour l'aventure Robinson sur TF1, sorte de Koh-Lanta pour ouais. Star avec des épreuves difficiles, vous avez gardé vos lunettes
dingue,
noires nuit et jour.
C'est dingue, quand j'y repense, c'est vrai que c'était fou.
Mais Gims, si on vous proposait un vrai rôle dans un blockbuster américain, comme en tourne par exemple Omar Sy, bon, vous réfléchiriez ou...
Oui, quand même, je pense. Ouais, je pense. Surtout que j'aime beaucoup le cinéma, j'aime beaucoup la science-fiction et tout. Je pense que oui, je vais réfléchir. Si c'est vraiment intéressant et tout, je vais réfléchir. Même un film français, un bon film poignant, un truc vraiment costaud. Ouais, bien sûr.
Tourné si par exemple avec Audiard, émotions, ouais. Avec Jacques Audiard.
Par exemple.
ça pourrait être l'un de vos prochains défis, le cinéma.
Ça pourrait. J'ai beaucoup pensé. On m'a sollicité pas mal de fois. Je pense que j'étais pas prêt. Je ne sais pas si je suis prêt aujourd'hui, mais ça pourrait, oui.
Alors, Gims, vous ne vous définissez plus comme un rappeur, mais comme un chanteur. Et votre musique, éclectique, hein, musique qui marie vraiment la pop urbaine à la rumba congolaise et la variété française au hip-hop, bah, elle le prouve. Mais pourquoi dites-vous la musique urbaine? Bon, c'est la plus écoutée en France, ça c'est tout à fait officiel. Et en même temps, c'est la plus compliquée à défendre.
Parce qu'elle a un passé assez lourd. Elle a un passé compliqué. Elle a beaucoup changé. Le rap a beaucoup changé ces 10 dernières années, mais elle a un passé chargé, compliqué. Ça demande du temps pour que le grand public, la grande France, entre guillemets, même si c'est la musique la plus écoutée aujourd'hui, pour que les grands médias, etc., puissent l'accepter en tant que tel. Ça va arriver, mais elle a un lourd passé. Très violent, etc. Elle a été associée avec pas mal de choses négatives. Donc ça demande juste un peu de temps. Ça, c'est parce que le passé du rap français, plein de choses...
De véhémence.
Exactement, c'est juste pour ça, c'est une question de temps.
Est-ce qu'on peut dire alors que la musique urbaine fait peur parce que ceux qui la chantent et qui sont restés dans un rap pur et dur font peur?
Je pense ils font peur, oui, ils font peur. Ils ne correspondent pas à ce qu'on veut forcément diffuser dans les grandes chaînes, radio ou télé. Ça ne correspond pas à ça. Ça, c'est pas ce qu'on veut, c'est pas ce que les gens veulent montrer, je pense. Donc c'est pour ça que ça reste une musique qui sera bien sûr la plus écoutée peut-être, mais la moins diffusée. C'est parce que ça fait encore peur.
C'est étonnant parce que vous dites la plus écoutée et la moins diffusée.
Oui. C'est bizarre, hein, mais...
Mais c'est une réalité aujourd'hui le streaming et tout ça. Alors, le rap que vous défendiez à vos débuts avec Section d'Assaut serait vraiment en train de se marginaliser, c'est ça?
Je pense, oui. Moi, je ne me considère pas comme un rappeur hardcore, même à l'époque de la Section d'Assaut ou quoi... Je pense pas que j'étais dans ce créneau-là. Je faisais du rap, mais j'étais pas dans un rap vulgaire avec des insultes à tout va, etc. Non, ça existe, hein, il existe ce rap-là, mais je pense pas que j'étais dedans. Sinon, même la Section n'aurait pas connu, je pense, ce succès-là.
Mmh. Alors, vous êtes en France, Gims, l'artiste global qui écrit, qui compose, qui produit, qui imagine, qui chante, qui incarne et qui s'offre le 28 septembre. Alors ça, franchement, c'est pas anodin. Le Stade de France. Votre but, ouais, c'est devenir le roi de la sono mondiale et aller chatouiller sur les terres américaines, les Drake, les Jay-Z, les Kanye West, les Kendrick Lamar, les A$AP Rocky, c'est ça?
Ça fait rêver, parce que voilà, le hip-hop vient de là-bas, la musique que je fais a pris vie sur ces terres lointaines, et bien sûr, ça donne envie d'y aller, ça donne envie de... J'ai envie qu'on m'écoute ailleurs, je pense que c'est tout artiste à ça un peu. Un Johnny l'avait,
ouais.
Edith Piaf, Aznavour, je pense
bien
que c'est une suite logique, c'est ce naturel qui revient.
Vous-même, vous avez déjà chanté à Miami, vous avez fait
oui,
plein de concerts
bien
en fait.
Sûr, j'ai une tournée aux États-Unis
Le Fuego Tour va partir aux États-Unis,
en Allemagne, aux États-Unis, au Canada. Donc le Fuego Tour va s'achever là-bas.
Waouh.
Ouais, ouais, ouais.
En passant, je le répète, le 28 septembre, par le Stade de France. Nous y serons tous.
Merci, vous êtes invités.
On fait une pause très courte et on retrouve Gims, mon invité.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie sur Europe 1.
Une heure avec Gims cet après-midi sur Europe 1. C'est l'invité d'Isabelle Morizet jusqu'à 16h. L'occasion d'écouter son dernier titre, Miami Vice. Non, c'est pas Laura Branigan, c'est bien Gims à l'instant avec son dernier titre, Miami Vice, titre inédit, qui lance la réédition de son album Ceinture Noire, réédition baptisée Transcendance. Et Gims, c'est l'invité d'Isabelle Morizet cet après-midi à l'occasion d'une actu bien fournie. Vous écoutez, il n'y a pas qu'une vie dans la vie.
L'album Transcendance de Gims, qui réunit les 40 titres de l'album Ceinture Noire plus 13 inédits, vient de paraître. Gims sera le 28 septembre prochain au Stade de France et cet après-midi, c'est en sa compagnie qu'on se promène. Alors Gims, vos premiers pas, puisque justement cet après-midi il s'agit de balades, vos premiers pas vous les avez faits à 9000 km de nous, à Kinshasa, au Zaïre, où vous êtes né en 1986. Pourquoi quand vous aviez 2 ans, vos parents ont-ils fui le Zaïre, qui est devenu depuis la République démocratique du Congo?
Ils ont fui un ex-Zaïre dans une situation compliquée avec un président à cette époque-là considéré comme... Enfin, c'était de la dictature.
Ouais.
C'était très compliqué, un pays en guerre perpétuellement. Hein. Congo qui a toujours été dans un tournant décisif à l'échelle mondiale, de par sa richesse, sa terre très riche qui, voilà, c'est considéré comme un des pays les plus riches du monde aujourd'hui. Avec, je vais pas faire un cours d'histoire ou quoi, mais voilà, c'est un pays en guerre en permanence parce que il y a énormément de richesses. Du coup, ça crée un déséquilibre total et c'est un pays très pauvre à la fois. Il n'y a pas de boulot, il n'y a pas de travail, il y a que la musique, il y a pour s'en sortir ou certains postes, du pistonnage, etc. Et on voit déjà la difficulté en France avec tout ce qui se passe. Donc vous imaginez l'Afrique.
Ouais.
Donc il a fallu fuir, il a fallu partir avec des enfants. Donc mes parents ont pris cette décision. Il a failli ne pas venir, moi.
Vous avez failli ne pas
ouais,
venir.
C'était un autre frère qui est resté, lui, qui devait venir à ma place. Et finalement, ça a été moi.
Alors, vos parents sont arrivés donc à Paris fuyant, on va dire, la crise économique, la misère, la dictature du Zaïre pour découvrir à Paris une pauvreté extrême. Ils maîtrisaient vraiment mal le français et puis ils sont arrivés surtout sans papier, vos parents. Leur histoire très vite est devenue douloureuse.
Ouais, et le truc c'est que moi, à cette époque-là, je ne m'en rends pas compte vraiment. Je suis tout petit, donc je ne m'en rends pas compte. Comme je dis tout le temps, voilà, les enfants, ils ont ce pouvoir, cette particularité, ils s'adaptent à tout. Hein, ils peuvent surmonter tellement de choses. Donc moi, je suis un enfant, donc je ne réalise pas tout ça. Je ne réalise pas tout ça, mais je vois que mes parents ne sont pas bien. Je vois qu'on est dans une situation pas comme les autres.
Et qu'ils déménagent sans cesse.
Et qu'on déménage sans cesse.
De squat en squat.
Voilà. D'école en école, de squat en squat. Ça devient vraiment... c'est ma vie. Voilà, ça devient ma vie.
Cette situation, en fait, elle a vraiment impacté votre enfance. Vous aviez quel âge, Gims, quand l'aide sociale à l'enfance vous a placé dans un pensionnat dans l'Essonne, donc loin de vos parents?
Ah oui, j'avais, à cette époque-là, je devais avoir 7 ans, 6 ans.
Oui.
Ouais.
Donc on vous arrache à vos parents. Vous ne les voyez plus?
Je ne les vois plus. Ils viennent une fois par mois ou les week-ends. Donc je suis dans une famille d'accueil avec plein d'autres enfants dans le même cas que moi. Et on évolue là-bas. On est scolarisé, etc. Et on évolue là-bas.
Et vous vous retrouvez avec des mamans de substitution, c'est ça?
Voilà. Toute une organisation, plusieurs personnes qui se relaient.
Donc vous avez plusieurs mères de substitution.
Voilà, des pères, des mères, c'est des gens qui... Je ne sais pas si c'était des bénévoles ou des... Je ne sais pas, mais... Mais on était pris en charge et on dormait comme ça dans une grande pièce avec plusieurs lits, tous ensemble.
J'imagine que votre scolarité était aussi chaotique que cette situation familiale.
Oui, forcément, parce que ça va avec. Pour avoir une bonne scolarité, il faut un bon cadre familial, il faut que ça se passe bien à la maison.
Il faut de l'harmonie.
Bien sûr, c'est la base. Et moi, j'avais pas ça. Donc forcément, la scolarité, ça pouvait pas suivre derrière.
Alors, quand tout est mouvant, fluctuant, chaotique, effectivement, il faut se créer des repères. Très vite, la musique et le rap se sont imposés. Et je crois savoir qu'il y a deux adultes qui vous ont tendu la main lorsque vous étiez cet ado tourmenté. Une certaine Laura, un certain Yannick, c'est ça?
Oui. Une certaine Yannick, c'était une fille aussi, Yannick.
Oui,
oui, Yannick, Laura. Et Laura Briem qui était animatrice les mercredis au centre de loisirs, à l'école où j'étais, la première où j'étais. Donc le mercredi, c'était un peu l'évasion. C'était le moment où je pouvais m'évader. Je découvrais plein de choses, elle m'a fait découvrir énormément de choses. Plein de chanteurs, la variété française, l'opéra, le théâtre.
L'opéra.
Ouais, j'ai découvert tout ça à cette époque-là.
L'opéra.
Jeune. Ouais. Que j'ai tout de suite adoré, que j'ai beaucoup aimé. Et avec Yannick,
adolescent,
c'était...
Adolescent, ouais, vous avez tout de suite...
Tout de suite, ça n'avait rien à voir, hein, mais je ne sais pas, j'ai accroché. J'ai tout de suite accroché. Ouais.
Devenir... Un rappeur, c'était concrètement la seule voie que vous pouviez envisager à cette époque-là, parce que vous avez aussi suivi des études de graphisme. À la fin de l'adolescence, vous avez fait une école d'art, c'est ça? Je ne sais pas si vous étiez boursier ou pas, mais en tout cas, vous êtes dirigé vers cette voie. Donc, vous aimiez dessiner, la musique a recouvert tout ça.
Ce n'était pas la seule voie, la musique a recouvert tout ça, mais ce n'était pas la seule voie, je pense, la musique. Il y avait cette voie aussi, justement, le dessin. Il y avait cette voix, effectivement. La musique a pris plus de place, naturellement. Parce qu'il commençait à se passer quelque chose. Il commençait vraiment à se passer quelque chose.
C'est-à-dire ?
Bah ça commençait à marcher, j'avais confiance en moi. Et les gens me donnaient confiance en moi.
C'est-à-dire vous commenciez à vous produire ? Vous avez fait vos premières scènes à quel âge ?
Première scène, bah, c'était avec à l'époque où j'ai rencontré Laura Briem, Yannick. Pendant les ateliers, entre guillemets, ateliers musique, etc., on nous donnait la chance de nous produire sur scène avec la mairie, avec l'aide de la mairie du 3e arrondissement. On pouvait se produire une fois par an, sur scène, lors d'un spectacle. Donc c'est à ces moments-là que je connais un peu la scène.
Et vous écriviez vos titres ?
J'écrivais mes titres, j'essayais d'écrire. C'est vraiment les premières fois. J'avais 11 ans.
Alors effectivement, deux voies possibles. Le dessin ou la musique ? Bon, la musique peut fabriquer des stars, le graphisme, plus rarement.
Plus rarement, c'est
vous
vrai.
Vous aviez envie de devenir une star ?
Non, j'avais pas envie de devenir une star, non. Moi, ce que je voulais, c'est faire ce que j'aime, vraiment. Je voulais faire du dessin. Donc, je suis allé à l'école de dessin, vraiment pour aller au bout.
Mais finalement, vous avez choisi la musique ?
Finalement, la musique, c'était un plus à côté. C'était un hobby, j'avais des copains, on partageait les mêmes choses, on découvrait le rap français, tout ça, donc... On s'était monté un groupe, c'était pour rigoler au début.
C'est à l'adolescence que vous avez rencontré, en fait, ceux avec lesquels vous avez formé cette
oui.
Sûre d'assaut ?
Oui, ouais, c'est à l'adolescence, vraiment. C'est là que...
Donc tout est parti d'une histoire d'amitié ?
Tout est parti d'une histoire d'amitié. On ne s'est pas dit, on va le faire, on va percer, on va faire ci, on va faire ça. C'est parti d'une amitié, de passion qu'on partageait ensemble.
Et avec pour repère, à cette époque-là, comme rappeur, quel nom ?
À cette époque-là, il y a plein de références, honnêtement. Il y en a tellement. Le hip-hop, il est en train de monter. Tout est en train d'exploser, que ce soit en France, aux États-Unis. J'avais beaucoup de références américaines. J'ai eu, comme le Wu-Tang, des gros groupes comme ça. N.W.A., qui était d'une autre génération, mais que j'aimais beaucoup. En France, on avait le Secteur A. Eminem, bien sûr. En France, on avait le Secteur A, la Mafia Kinfree. C'était nos références à cette époque-là.
Pas trop I.M.
IAM aussi, si, bien sûr.
Parce
si,
que
si,
je
si.
Précise, vous aviez 14 ans en l'an 2000.
C'est dingue d'ailleurs. C'est dingue, c'est vrai. Ouais. Non, si, IAM totalement. Aussi.
Europe 1.
On se promène cet après-midi en compagnie de Gims. J'allais dire Maître Gims.
Ah, le premier qu'il dit.
Attention les doigts. On fait une pause très courte, premier juré. On retrouve tout de suite Gims.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Avec Isabelle Morizet sur Europe 1.
Il est 15h22, Isabelle Morizet retrace le parcours de Gims cet après-midi. Il n'y a pas qu'une vie dans la vie, c'est jusqu'à 16h sur Europe 1.
La réédition des 40 titres de l'album Ceinture Noire de Gims plus 13 inédits vient de paraître sous le titre Transcendance. Voilà, c'est le nouvel album à glisser vraiment en très bonne place, j'allais dire, dans sa discothèque. C'est curieux, il est complètement obsolète ce mot discothèque, ouais. Mais c'est pas grave. Et le 28 septembre prochain, le Stade de France sera à Gims. Alors Gims, la musique, elle est dans l'ADN familial ou bien vous vous êtes forgé cette passion on se dessine une identité pour ne pas sombrer, vous l'enfant ballotté de famille d'accueil en squat. Est-ce que quand vous retrouviez vos parents, on chantait à la maison ou pas ?
Non, étrangement. Hein. Il y a de la musique à la maison, tout le temps. Mais on chante pas. Mon père ne chantait pas devant moi, ni ma mère. Mais on a baigné dans cette ambiance-là. J'étais conscient, je savais qui était mon père. Mon père était dans un groupe très connu.
Ah, il était musicien ?
Oui, il était musicien. Il est toujours.
Il jouait de quoi ?
Non, il chantait.
Il chantait, mais pas à la maison et pas devant
ses
fils.
Pas à la maison, pas devant moi. J'ai rarement eu l'occasion de le voir sur scène. J'ai très peu de souvenirs. Et à peine. Hein. Il faisait.
Et vous dites qu'il est toujours musicien. Donc vous allez, de temps en temps, c'est difficile pour vous d'y aller de façon anonyme, mais vous allez parfois assister à des concerts de votre père ?
Malheureusement, non. Il en fait très peu, c'est très rare. Mais il est toujours. Parce que la musique, je pense qu'on n'arrête jamais vraiment.
Et quelle musique défend-il ?
Ça s'appelle la rumba congolaise.
Ouais. Comme sapé comme jamais.
Exactement.
Ah, formidable. Bon, il a quel goût le succès, Gims, quand on n'a pas trop l'habitude, je vais dire, d'être aimé, ou en tout cas quand on se sent mal aimé, quand on se sent un petit peu à l'écart du système, vu l'enfance et l'adolescence qui ont été les vôtres. Lorsque soudain, le succès devient carrément un triomphe, et que tout le monde s'accorde à dire que ça y est, vous êtes une star.
Bah, il a un goût différent. Après, j'étais pas non plus mal aimé ou quoi. Non, ça va, j'ai eu une enfance difficile comme beaucoup de Français, comme beaucoup de monde.
Mais particulière tout de même.
Oui, particulière parce que je viens d'Afrique, etc., famille d'accueil. Mais au final, dans ces endroits-là, j'étais avec des gens. Donc, eux aussi, j'étais pas seul. Mmh. C'est ça le plus important, c'est qu'on soit pas seul. Le plus dur, c'est de vivre les choses seul. Là, on se sent vraiment unique au monde, seul au monde, etc. C'est quelque chose que j'ai partagé avec plein d'autres gosses, avec le sourire. J'étais heureux, j'étais content. Et c'est aujourd'hui, à l'âge adulte, que je peux faire une thèse, entre guillemets, de tout ce qui s'était passé, de tout ce qui s'est passé. Mais voilà, au final, ça s'est plutôt bien passé.
Et vos parents, comment ont-ils réagi devant votre changement de statut? C'est-à-dire, soudain, leur fils, par la voix, j'ai presque envie de dire, officieuse de la musique, parce que c'est toujours une aventure, on ne sait jamais si ça va marcher quand on se lance comme ça dans la musique. Leur fils devient une star, et eux, ça leur apparaît comment? Puisque justement, votre père est musicien.
Ça, franchement, c'est... J'y pense souvent, j'essaie de me mettre à leur place. Comment ils ont vécu tout ça? Parce que c'est... Les parents, c'est souvent les derniers au courant. C'est un peu les derniers au courant. Tout se passe sous leur nez, mais ils sont pas au courant. Ils sont pas au courant, malheureusement. Moi, je chantais, je me cachais pas, hein, mais ils voyaient pas. J'avais beau sortir des petits CD à gauche, à droite, ça marchait pas forcément, mais c'est un jeu pour eux.
Ouais.
Ils te diront à ce moment-là, concentre-toi sur ci, sur ça, trouve du travail.
Ils vous l'ont dit.
Tes études, bien sûr. Bien sûr. Parce que la musique, c'est les métiers, les boulots d'artistes comme ça, c'est jamais pris au sérieux. On pense que... en train de s'amuser ou c'est des fantaisies. Mais une fois que ça marche, que les gens vous le rendent, etc., on voit que ça commence à devenir... c'est magique. C'est vraiment les métiers les plus magiques. La célébrité, tout ça, tout ce qui touche à ça, quoi. C'est des choses inexplicables. Ça relève de la magie pour moi.
Alors, question qui fâche, Games. Vous qui, le 28 septembre prochain, remplirez en chantant en français, le Stade de France. Vous en êtes toute l'obtention de la nationalité française qu'on vous a déjà une fois refusée?
Bah écoutez, honnêtement, j'y pense plus trop. Pourquoi? Parce que je me suis fait l'idée de... J'ai pas envie d'être déçu à nouveau, ou de repartir, redemander, faire... je sais pas.
Alors vous avez renoncé à la redemander?
J'ai renoncé, oui et non. Parce que ça m'a bouleversé un petit peu tout ça.
C'est vrai.
Ça m'a un peu bouleversé parce que je pense que c'était pas trop demandé, c'était pas quelque chose de... Je pense que c'est cohérent avec ce que je fais, avec l'endroit où j'ai grandi, mes enfants, etc.
Ce que vous défendez sur le sol français.
Ce que je défends, c'était juste... Pour moi, j'ai vu ça comme quelque chose de logique.
Le partage,
oui, voilà,
avec les Français.
Voilà, c'est mais ça n'empêche pas de me sentir aujourd'hui français ou quoi que ce soit. Après, oui, c'est un document, c'est la loi et tout, etc. Mais aujourd'hui, moi, quand je suis en Allemagne, quand je vais être aux États-Unis, ils connaissent pas tout ça. Ils voient un artiste français qui est là.
Bien sûr.
C'est tout. Tu vois, moi, c'est ce qui m'importe, c'est tout.
Il est très philosophe, Gims. En fait, il est formidable. On
Merci
fait une
vous.
Pause. On le retrouve tout de suite.
Ceinture noire s'est arraché à plus de 600 000 exemplaires en un an, streaming inclus. Gims se raconte sur Europe 1. On le retrouve au micro d'Isabelle Morizet. Vous écoutez, il n'y a pas qu'une vie dans la vie.
Je reçois l'artiste de tous les records, celui qui a vraiment les cartes en main pour devenir l'un des rois de la sono mondiale. À l'occasion de la sortie de Transcendance, album qui réunit les 40 titres de Ceinture noire plus 13 inédits et porté par une tournée qui traverse toute l'Europe, le Fuego Tour, eh bien Gims s'offre le Stade de France le 28 septembre prochain. Et après le Stade de France, il y aura encore des concerts aux États-Unis, n'est-ce pas?
Aux États-Unis, oui.
Formidable.
Canada, États-Unis.
Alors Gims, vous êtes né il y a 32 ans de ça, dans, on l'a dit tout à l'heure, la capitale de l'ex-Zaïre, devenue depuis la République démocratique du Congo. Là-bas, vous êtes considéré à la fois comme un dieu et une légende, l'Africain devenu une ultra-star en France. Mais quel lien vous avez gardé avec votre pays d'origine? Est-ce que vous y allez assez régulièrement?
Malheureusement, non.
Pourquoi?
Je ne vais pas assez régulièrement, pour plein de raisons. Les seules fois où j'y suis allé, c'était pour des concerts. C'est vrai. C'était pour des concerts parce que ça reste très compliqué pour moi d'y aller.
Sur quel plan ?
Sur le plan, je suis tellement populaire là-bas, etc., que quand j'y vais, je suis obligé d'aller avec l'armée, quoi. Je suis obligé de, je peux vraiment pas me promener, je peux rien faire. C'est très compliqué.
C'est à ce point.
Je peux pas sortir comme ça et me poser quelque part dans un resto ou machin. C'est impossible. Sachant que c'est un pays déjà très compliqué, avec beaucoup de... Il y avait une guerre civile qui s'est calmée aujourd'hui, parce qu'il y a un nouveau président, etc., etc. Mais à l'est du Congo, le massacre perpétuel qui se produit là-bas, des choses qu'on me reproche, hein. C'est ce qu'on m'a, on me l'a reproché.
On m'a reproché
de pas avoir... de pas prendre parti ou de pas assez en parler ou de pas me positionner. Donc on me reproche en fait ce qu'on reproche à un homme politique.
Voilà.
Mais le Congo, c'est particulier. Un chanteur connu au Congo, c'est comme un homme politique. C'est le statut qu'on lui donne.
Il est le représentant d'une nation.
Même s'il fait pas de politique, c'est comme un politicien. C'est ce que moi je reproche aux Congolais. C'est de reprocher aux chanteurs des choses qu'on doit reprocher aux politiciens. Le chanteur, il est là pour véhiculer des émotions, pour le plaisir des gens, pour chanter. Il est là pour ça. Il n'est pas là pour faire de la politique. Il peut en parler dans des chansons, etc. Et c'est ce que je reproche, moi, à un certain Congolais, de tout mélanger comme ça. Et ça n'arrange pas les choses. Et ça va très loin dans ce machin-là. Ça va vraiment très loin.
Donc c'est impossible
Donc
pour
c'est
vous
impossible
de parler
pour moi,
avec la jeunesse
aujourd'hui,
de Kinshasa.
D'arriver à Kinshasa, de m'installer là-bas, de machin... J'ai pas envie de me balader avec l'armée, avec des kalachnikovs, j'ai pas envie.
Gims, vous en êtes où de votre projet pour l'accès à l'eau potable? Je le précise, l'accès à l'eau potable, c'est la... On va dire que la première cause de mortalité chez les tout-petits
en Afrique
est justement le non-accès à l'eau potable. Alors, vous deviez monter une structure avec une grande fondation. Voilà, c'est en cours de route?
C'est en cours de route. Je vais enfin pouvoir le faire. C'est ce que j'attendais. Là, je considère que l'album Transcendance va sortir. Ça met un terme à cet album qui était Ceinture Noire. C'est la dernière ligne droite.
Oui.
Je clôture.
Oui.
Maintenant, j'ai envie de me consacrer vraiment à tout ça. J'ai envie de faire ce que j'ai dit que j'allais faire. J'ai envie de le faire parce que je peux le faire maintenant et c'est le moment.
Donc c'est un projet très très ambitieux parce qu'il faut des techniciens, du matériel pour faire des forages. Oui. Et puis, il faut de l'argent, beaucoup d'argent. Et dans un pays... où la situation est toujours sensible, si chaotique, où toutes les guerres civiles peuvent naître d'une heure à l'autre, c'est pas évident.
C'est pas évident, mais il y a des équipes pour faire ça. J'ai rencontré, moi, des gens qui font des forages, des milliers de forages dans le monde. Je les ai rencontrés, j'ai vu ce qu'ils faisaient, ils m'ont montré ce qu'ils faisaient. Il y a des moyens de faire, sans même sortir forcément de l'argent. Il y a des associations, j'ai envie de me greffer à ces associations-là. Moi, j'ai pas envie de forcément de faire mon truc à moi, ma fondation, c'est moi, je le fais, versez-moi de l'argent. Non, j'ai envie de me greffer avec les autres, de ramener mon soutien.
Mais ce serait
c'est ça que je veux
sur
faire.
Le sol congolais?
Pas spécialement que
pas
sur
spécialement.
Le sol. Non, je parle du Congo, mais il y a le Mali, il y a le Sénégal, il y a le Burkina. Je suis allé partout en Afrique et on a tous le même problème avec cette eau, avec la nourriture, avec des structures avec des enfants n'apprennent pas de métier, il n'y a personne. C'est le chaos, c'est pas une façon de parler.
Vous chantez pour l'Afrique entière, puisque vos albums se vendent et marchent extrêmement bien là-bas. Est-ce que vous avez enregistré certains de vos titres en Afrique?
Enregistré directement, non, mais plein de titres ont pris... j'ai conçu beaucoup de titres en Afrique, énormément.
Vous avez là-bas des studios d'enregistrement ou pas? Parce
non.
que j'avais vu un projet de construction
projet,
de studio.
C'était dans le Maghreb, au Maroc.
Oui.
J'avais un projet, oui. Au Maroc et en Côte d'Ivoire. Il y a un projet pour des studios d'enregistrement, justement pour donner la chance à... On a énormément d'artistes en Afrique, notamment en Côte d'Ivoire. Et j'ai demandé à un ministre de me soutenir dans ce projet-là, qui s'appelle Ahmed Bakayoko, que j'aime beaucoup, qui fait énormément, fait énormément pour la Côte d'Ivoire.
Ouais.
Et donc, on a ce projet-là.
Alors, puisqu'on parle musique, je retourne au Congo, sapé comme jamais, votre méga tube couronné par une victoire de la musique, qui rendait hommage à l'art de la sape des jeunes dandys au Congo. C'est une pure rumba congolaise. Vous êtes très très doué pour mixer les influences. Pour être le roi de la sauce mondiale, faut mixer justement entre elles toutes les musiques. Certains puristes du rap vous reprochent ça, n'est-ce pas ? On sait que vous aimez la variété française. Vous nous avez dit que vous êtes tombé en amour pour l'opéra lorsque vous étiez ado, mais vous faites du hip-hop, vous faites... bon...
Ouais, je suis en train de tout saccager, quoi.
Non, je n'ai pas dit ça. J'ai parlé de mariage.
Ouais. Bon, tout le monde ne l'entend pas de cette façon, malheureusement, dans le hip-hop et tout. Moi, je suis pour les combinaisons, pour le partage, le mélange, toutes ces choses-là. Pour moi, il y a que deux types de musique. Il y a la bonne et la mauvaise musique. Il faut pas s'inventer. Il y a la bonne musique et la mauvaise musique. Si c'est tout. Soit on aime, soit on n'aime pas. Mais on peut pas dire qu'on n'a pas le droit de faire ci ou ça.
Bon, en tout cas, Games, récemment, vous êtes offert un duo avec une jeune star de la chanson française, un duo qui a fait 79 millions d'écoutes en streaming, 128 millions de vues pour le clip sur YouTube, et qui a été numéro 1 du classement général de toutes les radios en 2018. C'est bien sûr la chanson baptisée La Même avec Vianney. Vous dites que Vianney chante avec des intonations africaines.
Ouais, moi, je l'ai remarqué, moi. Peut-être pas le grand public, mais moi je sais. J'ai entendu. Et peut-être qu'il le fait inconsciemment.
Hein. Ouais.
Ouais. Et ça m'a plu.
Mais développez pour nous, qu'est-ce qu'il y a d'africain dans sa façon justement de placer les sons?
C'est de sa façon de placer certains mots, des intonations qui sont pas. C'est pas normal de les placer comme ça pour quelqu'un de la variété. Parce que ça vient pas de la variété française. Donc c'est quelqu'un qui a une très grosse culture musicale déjà. Qui écoute énormément de choses.
Il a beaucoup écouté la musique africaine ?
Je pense, oui.
Parce que vous êtes très amis tous les deux.
Ouais,
donc
ouais. Il est très urbain, il écoute énormément de rap. Il compose pour des rappeurs. Il écrit, et ça, les gens ne le savent pas. Et quand j'ai vu ça, moi, quand j'ai découvert, quand je suis allé chez lui, dans son foyer, j'ai vu Vianney chez lui, avec ses chaussons.
Là, ça y est, c'est là, le scoop. Vianney,
et là, je me
le
suis dit,
bon
bah oui.
Vianney bosse en chaussons et à la
ouais,
maison.
Bosse en chaussons, Vianney, voilà, vous le savez. Et là, je me suis dit, bah oui, c'était sûr. Ouais, c'était sûr.
Bon, les dandys congolais, eux, ils portent pas de chaussons. Hein. En quelques mots, juste avant de faire une pause, Gims, ils peuvent aller jusqu'où les délires de la sape pratiqués justement par ces néo-dandys qu'on appelle les sapeurs au Congo?
Ah, les sapeurs,
ça va loin.
Ça va très loin. Ça va très loin. Au début, c'est de la sape. Hein. C'est un costume, une cravate, des chaussures. Ensuite, tu rentres dans la sapologie.
Wow.
Ouais. Tu rentres dans ce qu'on appelle la sapologie. Tu deviens un sapologue. Tu as des règles à respecter, des codes, des couleurs à marier et à ne surtout pas marier. Tu rentres comme dans une religion, une secte. Vraiment. C'est sérieux hein, leur truc, c'est vraiment sérieux.
Mais vous seriez capable d'être un vrai sapeur?
Moi je suis pas, non.
Vous
je
connaissez
suis pas
toutes les règles de la sapologie?
Je connais les règles et les codes, tout est codifié. Je connais les règles, il y a des démarches à avoir. Il y a des façons de marcher, c'est comme un défilé et tout.
Ah
c'est
oui,
sérieux.
En plus
oui, c'est sérieux.
Dans la rue, comme
des vidéos,
ça, juste pour aller au café.
Je vous aurais montré une vidéo, vous serez... c'est incroyable, c'est incroyable. C'est incroyable, ils parlent à leurs vêtements et tout.
Ils parlent à leurs vêtements?
Ouais, il y a certains sapeurs qui parlent à leurs vêtements.
Bien.
C'est dingue. Non, mais c'est incroyable. Hein. Il faut faire un film dessus. Je comprends pas pourquoi il n'y a pas eu un film dessus. C'est incroyable. C'est incroyable.
Non, mais c'est extraordinaire.
C'est
ce que
drôle.
Vous nous révélez.
C'est fou. C'est dingue. C'est du théâtre. C'est une philosophie.
C'était des vrais sapeurs qui vous avaient accompagné sur scène aux Victoires de la musique. Je m'en souviens, le ballet Dément, lorsqu'on vous a remis justement pour
c'était
saper comme jamais.
C'était uniquement des vrais sapeurs reconnus dans ce monde-là, respectés. Ouais.
Et vous qui êtes toujours justement au niveau du style, enfin c'est toujours très pointu. Au milieu de tous ces sapeurs, vous étiez d'une sobriété incroyable.
Ouais, plutôt. Ça va. C'est vrai que j'étais assez sobre au milieu de tout ça. Parce que je me considère pas comme un sapeur. C'est un hommage, c'était pour eux. Pour mon père, pour tout ça, parce que c'est sa génération.
On retrouve tout de suite Maître Games. Ah. Et ça, c'est... Oh Elle l'a dit.
Elle l'a dit.
Vous voyez, c'est sorti du cœur. Bon, voilà. Allez, je suis pardonnée d'avance. On retrouve Gims et c'est épatant. À tout de suite.
La même Gims en duo avec Vianney. C'est le titre le plus diffusé en 2018 à la radio. Classement publié il y a 4 mois par la société d'études Yacast. Gims est l'invité d'Isabelle Morizet cet après-midi pour une heure en tête à tête sur Europe 1. La suite de cet entretien dans un instant.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Avec Isabelle Morizet sur Europe 1.
Il est 15h44, il n'y a pas qu'une vie dans la vie se poursuit sur Europe 1 avec Isabelle Morizet et son invité Gims.
Gims qui s'offre le Stade de France le 28 septembre prochain et cet après-midi mon invité. Alors Gims, être un artiste c'est formidable mais à la fois un artiste et un homme d'affaires, alors là c'est la panacée puisque bien sûr tout au long de la chaîne de création on gère soi-même ses envies et on est libre d'en prendre financièrement les risques, donc si tout va bien d'en récolter les gains. À quelle occasion vous êtes-vous découvert cette fibre d'homme d'affaires? Parce que vous êtes un homme d'affaires et un vrai producteur.
Ouais, j'ai du mal à me voir en mode homme d'affaires. Tu sais, les hommes d'affaires, je les ai toujours vus avec des mallettes, costumes, ils sont là, bureaux. Mais oui, c'est vrai que je suis rentré un peu dans ce monde-là. Ouais.
Mais à quelle occasion?
À quelle occasion? À partir du moment où j'ai su que je pouvais apporter mon soutien, je pouvais aider les autres. Je pouvais produire, donner la chance comme on m'a donné. Et ben, ça m'a rentré, je suis rentré dans cette case-là, malgré moi. Voilà, je suis devenu un homme d'affaires finalement. Parce que voilà, j'ai fait des affaires, j'ai fait des contrats, j'ai signé des
alors,
gros.
Alors, d'abord dans la musique.
D'abord dans la musique et ensuite dans la SAP.
Oui, parce que vous êtes toujours impliqué dans la mode avec votre propre marque de vêtements.
Oui. J'avais lancé une ligne quand j'ai sorti mon premier album.
Oui.
Qui s'appelait Vortex.
Oui.
C'était un truc. Temporaire, éphémère, c'était juste par rapport à l'album, la tournée, etc. Ça avait super bien marché. Ensuite, avec le Fuego Tour aussi, donc on a lancé une ligne. Et,
qui a pour nom
c'était Fuego Tour.
D'accord.
Fuego Tour. Et là, je viens de lancer.
Elle est distribuée.
C'était uniquement distribué pendant les concerts.
Ah, d'accord.
C'était une ligne spéciale. C'était vraiment pendant les concerts. Et là, je viens de lancer une ligne avec une marque qui s'appelle Eleven Paris.
Oui, très
une collection spéciale. Qui s'appelle I'm Not a Rapper. Une idée de ma femme. Une super idée de ma femme et qui marche super bien, qui cartonne.
Et alors, vous donnez vos indications aux stylistes ou bien vous avez une équipe de créatifs qui travaille en roue libre?
Il y a une équipe, mais on donne la direction quand même. Demdem a donné vraiment la direction. Elle est plus calée que moi en mode. Dans la mode, c'est elle qui a vraiment tout chapeauté. Moi, j'étais là aussi, mais j'étais plus là aussi pour porter, pour donner une visibilité, pour ramener. Mais la source, etc., l'ADN, c'était pas moi directement. Là, pour une fois, j'ai vraiment voulu m'abandonner. Voilà.
Mais alors, pour la scène, Gims, c'est vous qui dessinez vos tenues? Ou bien, comme toutes les stars américaines, vous avez un staff occupé en permanence à dénicher dans le monde entier les créations les plus pointues? Ou alors, c'est votre épouse, Demdem, très douée pour ça, qui gère?
Là, pour la tournée, non, je voulais quelque chose de spécial.
Oui.
Il s'agissait du Fuego Tour, etc. Je voulais que déjà que tout le staff soit en mode, c'est comme des, ils sont habillés comme des pompiers un peu, tous. Voilà, tout le monde est habillé un peu en pompier, mais stylé, genre, avec écrit Fuego Tour, machin, ouais. Combinaison rouge, machin. Et moi, j'ai à peu près la même chose, mais en blanc. En blanc, parce que blanc, j'aime beaucoup cette couleur, et voilà, les gens me voient bien sur scène, etc. Avec les lumières, ça donne, c'est super beau.
Et il vient d'où le sublime blouson japonisant, rouge et or, en couverture de l'album Transcendance? Ah.
Bah ça, c'est mon styliste qui me l'a ramené, qui me l'a proposé. Il y a des choses comme ça. Ça, je l'ai découvert pendant la séance photo. J'ai vu le truc, j'ai beaucoup aimé.
Oui, et puis vous qui aimez justement l'esthétique japonisante. Alors justement, le Japon, ça a toujours été pour vous une vraie source d'inspiration. Et depuis une quinzaine d'années, Gims, vous qui avez fait une école d'art, une école de graphisme, donc vous rêviez de produire votre propre BD dans l'univers du manga. Alors c'est chose faite avec Devil's Relics et vous êtes entouré des meilleurs bien sûr pour réussir ce défi, épaulé par deux grandes maisons d'édition, Fayard et Glénat, spécialistes en France des mangas. Je voudrais que vous nous racontiez cette aventure étonnante. C'est les 1000 vies de Gims.
C'est vrai que j'ai repris mes travaux en fait. Je suis revenu, j'ai continué. Je suis revenu en 2003 Oui. 2004, pour terminer ce que j'avais commencé en école d'art, justement.
Oui.
Je me suis dit, là, je pense qu'on peut enfin commencer, entre guillemets, terminer le boulot. Parce qu'aujourd'hui, j'ai les connexions, je connais les gens, on peut rencontrer les vraies équipes. Et peuvent nous soutenir.
Mais c'est-à-dire que la galerie de personnages, donc, et l'univers de tout. Ce manga, Devil Relics, voilà. C'est vous qui les avez imaginés,
absolument.
Même si vous n'êtes pas le scénariste final, ni le dessinateur final.
Absolument.
Mais vous avez amené vos propres planches.
J'avais mes planches, j'avais les dessins qui étaient déjà là, tous les personnages, l'histoire, ouais. L'univers. Ouais. J'ai ramené les croquis, j'ai tout ramené à Monsieur Tamura, Yoshiatsu Tamura, qui est le mangaka, le japonais.
Oui.
Qui a...
Ça pose comme nom, hein.
Ah oui, ça sonne, hein. Yoshiatsu Tamura. Donc, qui a adoré et qui a été séduit par le projet et qui a accepté, malgré son planning de ministre, il a accepté
ouais.
Le défi. Et il m'a accompagné dans ce projet, avec mon petit frère Darcy.
Alors, la question s'impose. Kaïs, votre héros, il vous ressemble ? En fait, c'est
un petit peu, parce que il est perdu, un petit peu, il sait pas trop ce qui lui arrive. Il va apprendre à savoir, à se connaître lui-même. Il se cherche. Il se cherche. C'est un orphelin. C'est un orphelin qui se cherche. Donc, oui, ça me fait penser un peu à moi. Je me cherchais. Je savais pas trop ce qui se passait, mais en même temps, j'étais heureux, j'étais bien. Mais c'est à peu près ça le personnage. Il vit dans un monde chaotique.
Oui, parce que c'est un manga de combat aussi, c'est assez sombre.
Voilà, c'est un manga assez sombre. Parce que j'aime bien cet univers-là, je trouve que ça parle beaucoup parce qu'il y a l'espoir qui revient. L'espoir prend tout son sens dans ce monde-là. Donc c'est pour ça que j'aime bien, c'est pas que j'aime bien l'obscurité, etc. Mais sans l'obscurité, voilà, on n'a pas la lumière, on n'a pas la valeur de la lumière. Donc, c'est que de l'espoir, je vois que de l'espoir dedans.
Et combien d'albums déjà sont parus de Devil's Relics ?
La dernière fois que j'ai demandé, on était à plus de 11 000 déjà.
Ouais. Mais il y a, une BD, un tome qui est paru.
Il y a un tome qui est paru.
Et le prochain ?
Et le prochain, c'est pour cet été normalement. J'espère qu'on va être dans les temps. Le tome 2.
Formidable.
Le tome 1 a super bien marché.
Formidable. Pour cet été, donc, le tome 2 de Devil Relics avec Kaïs, héros qui ressemble à Gims. Gims, le showman hors pair qui s'offre le Stade de France le 28 septembre prochain pour un concert. Colossal. Et ben voilà, Gims, c'est maintenant sur Europe 1. C'est passionnant. À tout de suite. Europe 1.
15h52, vous écoutez Il n'y a pas qu'une vie dans la vie sur Europe 1 pour quelques minutes encore. Gims, 20 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux et l'invité d'Isabelle Morizet.
Oui, on peut avoir 20 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux et avoir sa statue de cire au musée Grévin. Eh oui, jamais un rappeur avant vous, Gims, n'était entré au musée Grévin.
Il y avait Diams quand même.
Mais sa statue a été retirée, je crois.
Ah, je sais pas. Mais je sais qu'elle est... Il faut le dire, mais elle était là, je crois, déjà.
Parce qu'il y a des enquêtes...
Le premier mec, je crois. Rappeur.
D'accord, il y a des enquêtes qui ont été faites auprès des internautes et il paraît que les internautes vous ont préféré à Soprano.
Ah,
qu'on adore,
ah bon,
mais ils vous ont préféré. Eh oui.
Ah, ça se jouait avec Soprano alors.
Oui, ah, je vous révèle ça.
Désolé mon Saïd, désolé.
Bon, on plaisante pas avec l'image au musée Grévin. Il paraît qu'ils ont peaufiné pendant 6 mois votre statue de cire. Alors je voudrais savoir si il a fallu que vous prêtiez à l'épreuve terrifiante du masque de plâtre ou bien vous avez échappé à ça.
J'ai joué le jeu. Hein,
le masque de plâtre.
Est-ce qu'ils m'ont mis le masque? Non, ils n'ont pas mis le masque. J'ai fait les mains. Ils ont pris les dimensions, le visage et tout. Ils le font comme ça maintenant. Je sais pas comment ils y démerdent, mais ils sont vraiment forts.
Ou avec un système peut-être
un système
de 3D,
de 3D,
c'est ça,
exactement.
Ça
ils m'ont mis dans un machin,
ça.
J'étais,
voilà.
Ils m'ont mis en caleçon. Et j'étais limite, j'étais comme qu'on fait
mais
le scanner.
Mais avec les lunettes.
Mais avec les lunettes.
Justement. Alors vous avez choisi lesquelles de lunettes, Gims?
J'ai choisi.
Parce que j'imagine que vous avez une collection absolument démente. Hein, vous devez en avoir quelques milliers, c'est
belle,
ça?
J'ai une belle collection. Non, pas milliers, mais j'ai une belle collection. Elles sont pas mal vos lunettes d'ailleurs aussi.
Ah, merci beaucoup.
Vous êtes là, je sais pas si on vous voit, mais elle est sapée. Hein.
Elle est sapée.
Toutes de soie vêtues, mauve.
Hein, violette,
rouge à lèvres
fluo,
un peu qui
hein.
va avec. Ouais, ouais. Non, il y a des belles. de paire de baskets. Elle est sapée.
Merci maître. Vous voyez là, je suis obligée de dire maître. Hein. Bon, 20 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux, 100 millions de vues sur Snapchat, des ventes d'albums absolument pharaoniques. On l'a dit le 28 septembre, vous allez embraser avec justement le Fuego Tour, le Stade de France, avant d'aller faire des concerts dans des stades aux États-Unis. La France et bientôt l'Europe seront un terrain de jeu étroit pour vous, Gims. Vous êtes donc prêt à jouer sur les terres de Drake, de Kendrick Lamar, de Jay-Z, prêt à décrocher par exemple la couverture du Times, comme l'a fait Christine and the Queens. Est-ce que la presse Christine. Américaine vous a déjà approché?
La presse, non. La presse, non. J'ai eu l'occasion de faire des plateaux que j'ai refusé parce que j'avais peur de ne pas être à l'aise.
Lesquels?
Dans les émissions.
Lesquels?
Le Ellen Show.
Mais c'est génial, de Hélène DeGeneres.
Je suis pas prêt. Faut parler et tout. J'étais terrorisé.
Mais vous pouviez pas avoir un traducteur?
Ouais, mais c'est nul de faire Hélène avec, je sais pas.
Bon, allez pour l'année,
en fin d'année,
c'est normalement vous nous direz. Hein, je veux pas rater ça. Hein.
C'est prévu. Donc voilà.
Bon, Gims, avant de faire le Hélène DeGeneres Show. Que nous réservez-vous de réellement fou le 28 septembre au Stade de France?
Je vous promets un concert incroyable, une entrée grandiose.
Bon, alors on imagine tout, par les airs, par
Je sais pas, c'est une promesse en tout cas. Je ne peux pas en dire plus. Merci.
Bon, alors écoutez, là je sens que ça y est, là on a atteint le point ultime. Bon, je rappelle que l'album Transcendance vient de paraître et c'est la réédition de 40 titres plus 13 inédits avec des duos absolument somptueux. Bref, merci. À ne pas rater. Et puis le 28 septembre, bon, le Stade de France peut contenir combien en fait de personnes?
Musique, 72 000.
72 000, je pense qu'ils vont être 110 000 au moins.
J'espère bien, grâce à vous, grâce à tout le monde. J'espère.
Et on entendra chanter tard dans la nuit, voilà, sous le ciel parisien, grâce à vous Gims. C'était
merci.
Formidable.
C'était top.
Je vous embrasse et
merci,
puis
bisous.
Plein de belles et bonnes choses
merci,
pour la
merci,
suite.
Merci. À bientôt.
Au revoir.
C'était Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Demain, Isabelle Morizet reçoit la journaliste Martine Laroche-Joubert qui fait paraître au Cherche Midi une femme au front, mémoire d'une reporter de guerre, 33 ans de sa vie. Rendez-vous donc dès 15h sur Europe 1. Et dans un instant, l'essentiel de l'info, puis vous avez rendez-vous avec Carl Zéro et ses tontons flingueurs pour la rediff du week-end. Europe 1.